Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Ganzmann.
Bonjour Valérie.
Vous allez bien?
Oui, très bien, et vous?
Bon, j'espère que vous allez bien aussi, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous serons avec Élodie Gossuin. On parlera avec l'ex-Miss France de son émission sur Sister. Elle est à l'écoute des familles, elle-même a une très grande famille. On va en parler avec elle, comment a-t-elle survécu au confinement. Et puis, on aura Rémi Pernelet pour toutes les infos médias qu'il ne fallait pas manquer, avec Maria Doyle, l'une des finalistes de The Voice, qui sera avec nous. Et puis, Gérard Collard pour les livres, évidemment. On commence avec les audiences d'hier soir. Sans grande surprise, je vais commencer peut-être par le Gadin. Le Gadin qui était pour France 2, pour l'émission politique, qui a vraiment, alors là, pour le coup, pas marché du tout. 1 225 000 téléspectateurs. 6% de part d'audience pour Vous avez la parole, La France qui repart. C'est 800 000 téléspectateurs de moins que le précédent numéro. C'est un vrai, vrai Gadin. C'est le deuxième plus bas historique. Et c'est ce que vous avez regardé, Delphine, c'est cela ?
Oui, bonjour.
Bonjour Delphine. Alors vous êtes l'une des rares à avoir regardé. Vous l'avez regardé jusqu'au bout, l'émission ?
Alors, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Je suis tombée là-dessus, mais il n'y a rien, quoi. Parce qu'il y a vraiment la télé. C'est un peu décevant, pour ne pas dire le quoi, le drame. Je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, et voilà quoi, c'est, il y a des films, des choses plus intéressantes à penser que du revu, ou même si je suppose que les bronzés ont dû cartonner, ça, les 7e compagnie, etc.
C'est pas votre truc. Je suis obligée de vous couper, Régine, parce que vous entend très très mal. Mais effectivement, Delphine, pardon. Delphine, excusez-moi, parce qu'on aura Régine après. Mais Delphine, hier, les bronzés font du ski. Bah oui, mais ça a quand même rassemblé 5 886 000 téléspectateurs, 25% de part d'audience, presque aussi bien qu'Harry Potter. C'est 1 100 000 de plus que les bronzés de la semaine dernière. C'est incroyable, quoi, ce score pour les bronzés. Vous l'avez regardé, Gilles, hier ?
Non, pas du tout, mais je connais le film. Donc,
les gens qui ont regardé aussi, parce que ça, il a été diffusé, rediffusé de très très nombreuses fois. Je crois
j'enregistre pas mal de trucs, et puis je regarde, je regarde pas mal le Twitter. Vous avez vu la polémique sur Twitter sur Julie Lescaut, qui était invitée sur CNews, Valérie, pour parler de la police. Ça a beaucoup choqué les internautes. Je sais pas si ça vous a choqué, vous, mais c'était assez étonnant.
J'ai pas vu la séquence, mais c'est vrai que inviter Julie Lescaut, il y avait une petite blague sur Twitter qui disait on va appeler Navarro, ah non, il est mort, bon, on appelle Julie Lescaut. Et ce matin, quelqu'un disait à quand Louise Bourgoin pour parler de la crise dans les hôpitaux, puisqu'elle était dans le film Hippocrate. Donc oui, ils se sont fait bien moquer. On a Régine
quand
de Souillac avec nous. Bonjour Régine.
Bonjour à tous les deux.
Regardé Les Bronzés.
J'ai regardé Les Bronzés, alors je suis comme Gilles, bien sûr, je l'ai vu X fois, on connaît tous deux. Mais en fait, ça m'a inspiré une réflexion dans la mesure où je me suis dit, c'est incroyable quand même. On l'a vu, on connaît les dialogues par cœur. Ouais. Ceci étant, chaque fois qu'on le voit, on rit quand même devant les gags. Et d'autre part, je me suis aussi aperçue d'une chose, c'est que au fur et à mesure qu'on le voit, est-ce qu'on oublie ou pas, mais chaque fois, on redécouvre des petits détails qu'on avait oubliés ou qu'on avait zappés les fois précédentes. Et en fait, si vous voulez, même si ce sont des films de culte, bateaux, d'accord, mais en même temps, ça représente toujours une source de divertissement.
C'est plaisant, absolument. On se laisse prendre à chaque fois, et c'est effectivement, vous avez raison de le dire, on redécouvre on redécouvre des choses qu'on n'avait pas vues, puis c'est vraiment tellement bien fait que voilà. Merci de nous avoir appelé, Régine. Donc carton pour TF1 hier. Cassandre a retrouvé ses téléspectateurs, 4 546 000, et puis This Is Us toujours très bas sur M6, peut-être parce que les gens l'ont déjà vu sur Canal+, parce que c'est une excellente série. Enfin, en tout cas, les premières saisons étaient très bonnes. La fin, ça tire un peu en longueur. Mais c'est étonnant que ça ne marche pas mieux que cela.
Parce qu'ils diffusent beaucoup d'épisodes. Donc, si vous voulez suivre la série, il faut aller jusqu'à minuit, 1h du matin, parce qu'ils diffusent 4-5 épisodes à la suite. Donc, c'est ça aussi. Hein. Ça décourage.
Alors, on passe au zapping ?
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, Valérie Bruno Le Maire était donc l'invitée dans l'émission Vous avez la parole sur France 2. Et au cours d'un débat face au député Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, il a lancé une punchline animalière, on va dire, une punchline très surprenante.
Ils se plaignent d'un président de la République qui décide seul avec sa technocratie et ils se plaignent de ne pas être associés aux décisions. J'ai parlé avec Carole Delga il y a quelques jours. Vous ne l'avez pas appelée, vous n'avez pas travaillé avec elle sur l'aéronautique. L'Occitanie, c'est 40% de l'emploi dans l'aéronautique.
Ce serait extraordinaire, ce serait scandaleux, mais pardon, je ne suis pas un pangolin de l'année. J'ai vu Mme Caroline Delga.
J'ai vu Mme Carole Delga
il y a deux jours sur l'aéronautique.
Voilà, je ne suis pas un pangolin de l'année. Je ne suis pas un pangolin de l'année. Je pense que ça va. Il aura peut-être la phrase de l'humour politique, je ne sais pas.
Ça sent la punchline préparée quand même, non ? Vous ne pensez pas ?
Un peu. Ouais.
Allez, d'autres propos choc, ceux de Nicolas Bay du Rassemblement National. Il était chez Jean-Marc Morandini et vous allez voir, il a des propos dissonants sur la famille Traoré.
La famille d'Adama Traoré conteste cette expertise, fait une autre expertise, c'est leur droit et moi je respecte tout à fait ça. Mais enfin, la réalité c'est quoi ? C'est que cette manifestation elle est organisée par une famille de délinquants. Ils sont condamnés, multicondamnés.
Qui c'est la famille de délinquants?
La famille Traoré, c'est une famille de délinquants. Ils sont multicondamnés pour des trafics de drogue. Multicondamnés pour des extorsions sur des femmes handicapées. Ils organisent, alors qu'il y a le confinement et l'interdiction de le faire, une manifestation totalement interdite.
Et puis toujours les répercussions de la manif de mardi. Les policiers noirs, vous savez, qui ont été traités de vendus. Hier, sur LCI, un policier noir, justement, Abdoullah Kanté, a expliqué les insultes auxquelles il doit faire face parce qu'il est dans la police.
Je suis l'objet de multiples insultes, moi, sur les réseaux sociaux. Nègre de maison. Nègre de maison. Mais oui, il faut le dire. Nègre de maison. C'est quoi ? Parce que quoi ? Parce que je suis pas dans le bon côté ? Je choisis aucun côté. Le seul côté que je choisis, c'est celle de la République. Moi, j'ai été, vous savez, j'ai vécu en Afrique. J'ai vécu la plus grande partie de mon enfance en Afrique, avec des valeurs. J'ai été éduqué. J'ai été éduqué sur des valeurs, on va dire, humaines.
Ouais. C'est quand même juste bizarre, signaler également Dominique Sopo, qui le président de SOS Racisme, qui a soutenu que le groupe de personnes qui avait crié vendu à un policier noir ne visait pas le policier, mais un groupe de personnes, et que c'était impossible de déterminer qui était visé. Or, très clairement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ressortent l'extrait qu'on vous repassera peut-être, où très clairement, une femme dit à cet homme « Comment peux-tu faire ça ? Tu es un vendu. » Donc Dominique Sopo qui ment en toute impunité alors que c'était vraiment ce policier noir qui était ciblé et visé dans les insultes.
Oui, mais d'un autre côté, Valérie, ça voudrait dire qu'on voudrait une police faite que de blancs. Qu'est-ce qu'on entendrait alors s'il n'y avait que des blancs d'engagés, vous imaginez?
Oui, non,
puisqu'ils ne veulent pas ni d'arabes ni de noirs. Tu vois, c'est un peu dingue, quoi. Je vais vous parler de l'invention du siècle, Valérie. Elle était hier dans le journal de 20h de France 2. Vous allez découvrir un masque avec une valve pour pouvoir boire sans enlever son masque. C'est une invention italienne.
Le masque est en fait équipé d'une valve. Cela suppose de boire avec une sorte de paille. Un embout est aussi disponible pour boire à la bouteille.
Nous vendons une valve préinstallée et une autre adaptable sur un masque déjà perforé. Si quelqu'un veut boire une bière pression, avec ce système c'est possible.
La valve s'enlève et se désinfecte très facilement. Chaque masque coûte 5 euros.
C'est incroyable, hein. Et puis également hier dans Quotidien, l'avocat François Sureau a expliqué pourquoi le professeur Raoult était devenu une superstar. Vous allez voir, c'est la faute du gouvernement.
On a en plus un État qui a sans cesse dit le contraire de tout. Un jour il faut des masques, le lendemain il ne faut pas de masques, les tests sont utiles, les tests sont inutiles, etc. Face à ça, vous avez quoi ? Dans une période d'inquiétude où les gens craignent pour leur vie, vous avez le druide, le magicien, le gars jailli de la forêt profonde, qui est le médecin, le sorcier, le guérisseur, qui dit « moi, je vais vous guérir », accomplissant ainsi la tâche fondamentale de l'État depuis le temps des rois, qui est la guérison des écrouelles, comme on sait, la guérison physique. Il dit « je vais vous guérir », et en plus, lui, au moins, dit toujours la même chose.
Moi, je trouve que c'est bien vu le côté druide pour le professeur Raoult. Puis pour finir, notre chouchou Sandrine Saroche, qui chez Zemmour et Nolo sur Paris Première a adapté la chanson brésilienne Água de Março. Vous savez, les eaux de Mars qu'avait chanté Georges Moustaki. Écoutez la version de Sandrine Saroche, c'est un chef-d'œuvre, madame.
Anne Milan, une grippe assassine, un peu de chloroquine, c'est un virus dans l'air, c'est des gestes barrières, c'est Colmar et c'est Creil, un printemps sans soleil, c'est une année de merde, des masques dans la mer, c'est Golem qui s'y croit, c'est Greta qui aboie, Hulot qui déblatère, des claques qui se perdent, c'est le glacier qui fond. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est une année de merde, c'est des licenciements, le PIB décline, rideau.
Formidable,
hein. C'est assez bien vu, toujours assez juste dans les paroles. Merci Gilles pour ce zapping. Elodie Gossuin, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Comment ça va?
Ça va plutôt pas mal, écoutez, toujours plus ou moins confiné, mais ça va.
Oui, on est contente de vous avoir aussi, ça fait un petit moment qu'on vous attend.
Hein,
c'est toujours compliqué. Racontez-nous un petit peu ce confinement avec vos enfants, vos quatre enfants, ça s'est bien passé?
Eh bien écoutez, ça se poursuit un petit peu, parce que je continue à faire l'école à la maison. On a fait le choix de ne pas les rescolariser pour le moment. Donc on continue l'école en parallèle et j'ai la chance de pouvoir, moi, continuer la matinale radio depuis la maison. Donc effectivement, et pour une fois, j'ai la chance de finir directement la matinale et de pouvoir être avec vous. Donc c'est chouette.
Eh ben ça c'est super. Et ça vous plaît de faire la radio à la maison?
Alors, je vais être tout à fait honnête, je pense que ça ne fera pas très plaisir à mon patron, mais ça me convient parfaitement. Voilà.
Oui,
parce que tout est réuni, parce que la plus grosse concession, et vous le savez, quand on se lève tôt, c'est de ne pas être là pour le réveil des enfants, et là, finalement, de pouvoir prendre le petit-déj avec eux, et avoir le câlin, et en même temps, faire le métier qui me passionne, tout est réuni, donc c'est plutôt le bonheur, pour être honnête. Ouais,
alors, on vous retrouve sur Sister, évidemment, tous les jeudis à 21h05. Il y a une journée spéciale Fête des Mères le 7 juin sur Sister. Donc, tout au long de la journée, on va retrouver des messages. Racontez-nous un petit peu le programme de cette journée Fête des Mères.
C'est vraiment une journée consacrée pleinement aux mamans. Il y a plein de rendez-vous différents. Il y a le spectacle de Véronique Gaillot, The One Mother Show à 16h. Il y a des pastilles d'humour aussi qui vont suivre. Il y a un film avec Julia Roberts et Jennifer Aniston à 21h05, c'est Joyeuse Fête des Mères. Et puis oui, pour revenir, j'allais dire de façon très égoïste à mon émission, mais que j'adore, qui s'appelle Famille Extraordinaire, il y aura des numéros spéciaux dès 23h, avec notamment des mamans qui se battent pour le bonheur de leurs enfants, des mamans de famille très très nombreuses, dont 10 enfants, dont des triplés, des parents qui galèrent avec leurs 8 enfants et qui se battent au quotidien parce qu'ils sont dans l'adoption de 2 petites filles handicapées, d'un autre couple par exemple qui a connu un parcours de procréation médicale assistée très très complexe et puis qui a la chance d'accueillir un 4e bébé miracle, et puis aussi des mamans qui seront au cœur de ces programmes, des mamans qui surmontent leur handicap en fait pour le bonheur de leur famille. Et qui effectivement, on n'a pas conscience de ce qu'implique leur quotidien en étant notamment ou aveugle ou malentendante, et on suit leur parcours et leur combat de tous les jours. Et donc, ce sont vraiment des familles, pour lesquelles on arrive à s'identifier en même temps, qui nous émeuvent énormément, quoi. Et leurs parcours sont admirables. Donc voilà, des mamans qu'on a voulu mettre en lumière. Et, Parce que dans leur vie de tous les jours, c'est un combat de tous les jours et on est à leur côté et on est très fiers de pouvoir l'être sur Sister.
Et vous, à votre niveau, comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous aviez des jumeaux? Ça a dû faire bizarre quand même. Vous avez dû acheter tout en double. Comment vous avez réagi?
Alors, j'étais déjà plutôt préparée, très, très bizarrement, parce que je suis grande sœur de jumeaux. Donc, en fait, c'était mon rêve d'avoir des jumeaux, de reproduire ça, parce que j'ai vu à quel point avoir des jumeaux, c'est finalement leur faire à chacun d'entre eux le plus beau cadeau qui soit, parce que t'as ton meilleur ami dès la vie utérine et puis pour tes premiers jours partout, à l'école, etc. Après, j'avoue que ma deuxième grossesse, je ne m'attendais pas à avoir à nouveau des jumeaux. Donc là, ça a plutôt été un choc pour la deuxième grossesse. J'ai quitté la salle d'examen de la gynéco très brutalement et je n'en suis revenue qu'après m'être isolée un peu. C'est parce que j'étais aussi moins naïve, parce que c'est vrai que les jumeaux, ça peut faire rêver, hein, moi je l'entends. Et j'avais que cette part de rêve, et à côté de ça, j'avais pas conscience aussi des risques liés à la grossesse, à l'accouchement, et puis la gestion des premières années qui est quand même, bah voilà, très difficile. Quand on prend une douche de 2 minutes dans une journée, on est contente déjà, hein, faut le savoir. Donc voilà, c'est un peu galère. Il y a la galère qui va avec.
Ouais. Et donc, pour vous, c'était une évidence d'animer une émission comme celle-là?
C'était un cadeau. C'était un cadeau.
Parce que vous auriez pu vous orienter sur autre chose, sur de la variété, sur un autre type d'émission. Cela dit, vous en avez fait. Vous avez été aux côtés de Patrick Sébastien également. Mais là, c'est votre émission à vous. Elle concerne les familles, la famille. C'était une évidence. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être devenue aussi une sorte de grande sœur ou de confidente pour ces femmes, pour ces familles?
Ce serait mon souhait le plus cher, parce que effectivement cette émission elle est authentique, on ne triche pas, c'est leur vie, on cherche ni à faire le buzz ni à mettre en lumière ce qui ne le mériterait pas, c'est simplement mettre en lumière la vie de tous les jours de ces familles. Je m'identifie toujours, c'est vrai que je me dis à chaque fois que les sujets entre guillemets, même si là ça peut être péjoratif, sont bons, dans la mesure où à chaque fois que je pose ma voix, parce que je narre les sujets après le montage, etc., je ne pose pas ma voix à la fin d'un sujet. Si je n'ai pas versé une larme, je pense que ça n'est jamais arrivé, en fait, justement. C'est toujours plein d'émotions, et je me dis effectivement qu'on est dans le vrai à chaque fois, et je suis du coup très fière de pouvoir incarner ce programme parce que à chaque fois où je m'identifie, ou en tout cas j'admire, et c'est tellement vrai que cette émotion, je me dis qu'elle va se transmettre à travers la télé, et j'aime cette télé quand elle est vraie, en fait. Et c'est toujours le cas, donc je suis très fière de pouvoir incarner ces familles extraordinaires. Ouais.
Alors Élodie et Valérie, moi j'ai une question pour vous deux. Dimanche, donc, c'est la fête des mères. Quel est le cadeau le plus nul que vous avez reçu toutes les deux
C'est jamais nul, un cadeau sans langue de bois, ça fait toujours plaisir.
Non, mais c'est vrai, Valérie, vous avez raison, quoi, tellement. Ouais. Mais oui, parce que forcément, vu de l'extérieur, le collier de nouilles, le poème, le dessin un peu raté, les collages un peu à l'arrache, ça peut ne pas paraître super joli, objectivement, vu de l'extérieur. Mais nous, on est toujours très touchés. Enfin, justement, on préfère avoir ces petits cadeaux, ces cadeaux-là, que quelque chose d'acheté à l'extérieur. C'est ce qu'on veut, c'est quelque chose de sentimental, quoi. On veut juste.
Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les jumeaux? Vous avez reçu quoi?
Cendrier
en pâte à sel.
Il y en a eu beaucoup des fêtes des mères déjà là.
C'est ça. Il y en a eu beaucoup. Puis l'école, moi, continue aussi. En ce moment, évidemment, mais sinon, il y a toujours un petit cadeau qui vient de l'école. Mais moi, j'adore les poèmes. Je sais pas pourquoi. Je suis restée très attachée aux poèmes. On me dit, voilà, le côté cette fleur, c'est pour toi, c'est celle de mon cœur et tout ça.
Vous pleurez là encore? Vous versez une larme?
Bah oui, j'attends dimanche. Moi, j'adore la fête des mères, parce qu'au moins c'est une journée où ils te disent non, ne vide pas le lave-vaisselle, non, ne passe pas l'aspirateur. Ils font tout pour toi. Moi, j'adore cette journée.
Et les Miss France, c'est loin ou vous vous y intéressez encore?
Alors déjà, oui, j'allais dire de façon très pragmatique, ça fait 20 ans. Donc malheureusement, ça fait loin, et je prends à chaque fois une claque quand je repense à ces 20 années écoulées. Et c'est proche en même temps, parce que c'est tellement intense que le souvenir il reste intact, et que ça reste un conte de fées que je vis encore aujourd'hui grâce à Miss France. Je vais pas dénigrer quoi que ce soit, parce que si j'ai la chance de vivre de ma passion qui est la radio comme vous, c'est grâce à Miss France, parce que c'est un tremplin, et ça reste proche parce qu'il y a toujours des relations, un contact avec certaines. Dans la vie, quand il y a des expériences très fortes comme ça, humainement, psychologiquement, ça crée un lien qui est indestructible. Donc ça reste
très proche. Copine avec qui? Vous êtes restée copine?
Alors, avec certaines de ma promotion, donc qui ont été Miss Régionale, voire de mes dauphines, etc. Et puis, avec, j'allais dire, la vie fait qu'on se recroise régulièrement, de Nathalie Marquet-Pernaud, à Delphine Westizer, Laetitia Blégé. Il y en a beaucoup que je croise et dont j'admire le parcours. Parce que chacune fait ses choix et les assume encore plus. Ça permet d'avoir une maturité à 20 ans qu'on aurait acquise en plusieurs années. Donc, ce sont des femmes aussi qui... Enfin, moi, la plupart, c'est très étrange, mais j'admire les Miss, en fait, vraiment.
Ouais. Ils le savent, vos jumeaux, que vous avez été Miss France, vous leur avez dit?
Moi, j'ai essayé de le cacher le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'avec l'école, ta mère, elle n'a pas été Miss France. Donc, forcément,
Et vos filles, elles vont être elles ont envie d'être Miss France ou pas?
Je crois que ma grande est vaccinée. Non, je ne crois pas du tout. Ma grande est très sportive. Ça ne fait pas. En fait, je trouve que c'est mieux aussi parce que de suivre un schéma ou en tout cas un parcours tout tracé, c'est compliqué. C'est tellement un concours de circonstances aussi que ce serait difficile. Je préfère pas. Je pense que ce serait compliqué psychologiquement déjà. En revanche, avec ma petite dernière, elle est très princesse et c'est un mix entre la petite sirène et la reine des neiges. Donc il y a une chance pour qu'elle me demande à un moment donné. On avisera en temps et en heure.
Et ben, on suivra ça. Merci beaucoup, Élodie Gossuin, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Donc le dimanche 7 juin, journée spéciale fête des mères sur Sister avec plein de choses. Le spectacle de Véronique Gallo, vous l'avez dit. Joyeuse fête des mères. Donc il y a film américain avec Jennifer Aniston et Julia Roberts, et puis Famille Extraordinaire, donc on vous retrouvera à 23h10, et puis tous les jeudis sur Sister, avec ces familles que vous aimez, ces femmes courageuses et admirables. Merci à vous, on se retrouve dans un tout petit instant avec Rémi Pernelet pour les dernières infos médias. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 11h moins le quart, on parlera livre avec Gérard Collard. Rémi Pernelet nous a rejoint. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Bonjour, beaucoup d'infos médias. On va peut-être commencer avec The Voice. The Voice, les demi-finales qui vont commencer samedi soir. Et Gilles, quelques petites infos pour commencer sur ce...
Oui, alors ça va être un The Voice un peu spécial qu'on va voir. C'est une demi-finale historique qu'on n'a jamais vue, puisque évidemment, elle se fait dans les conditions dues au Covid-19. Alors il faut savoir que tous les chanteurs que vous allez voir ont enregistrer leurs prestations. Ils ne vont pas venir en plateau chanter en direct et ils ne seront pas sur le plateau. Ils seront en duplex, en visio, comme nous on l'est actuellement sur le Facebook de Sud Radio ou sur YouTube. Donc ils seront en visio et puis sur le plateau, il y aura les trois coachs, Amel Ben, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Et Lara Fabian, à cause du Covid-19, n'a pas pu revenir en France. Donc elle sera aussi en visio. Alors il va se passer quelque chose d'assez fort, c'est que pour la première fois, le public va avoir les pleins pouvoirs. Ça veut dire que sur tous les talents que vous allez voir, chaque équipe a 3 talents, vous allez voir 12 talents, eh bien, il ne va avoir que 4 finalistes. Donc, c'est ça qui est important. 4 finalistes. Non,
oui, toujours,
parce que là...
Il y a toujours 4 finalistes.
Non, mais laissez-moi finir, mais comme vous êtes. D'accord. Parce que cette fois-ci, comme c'est le public qui vote à 100%, eh bien, il peut avoir des finalistes issus d'une team, par exemple, Marc Lavoine ou Pascal Obispo peut n'avoir aucun de ses représentants voté par le public. Et ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, comme on vote pour 4, il peut avoir les 3 talents d'Amel Bent et un talent d'un autre membre du jury. Et c'est ça qui est vraiment assez étonnant pour la première fois dans ce programme. On peut se retrouver avec des coachs qui n'ont aucun talent en finale. Et ça, c'est jamais arrivé. À chaque fois, vous avez toujours un talent par coach.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est tout à fait nouveau. Non, mais tout à fait.
Simplement... Non, mais je vous ai dit, pour la première fois, il y aura 4 talents. Ce n'est pas pour la première fois, il y aura 4 talents.
Voilà, voyons, allez.
Et peut-être un petit mot sur les audiences, parce que c'est intéressant. Si on regarde l'évolution des audiences de The Voice depuis le début de cette saison 2020, eh bien, au début, The Voice était très nettement en retrait par rapport à l'édition 2019. Par exemple, le 8 février, il y avait 600 000 téléspectateurs d'écart. Les The Voice étaient en dessous de 5 millions, alors que l'année dernière, c'était à 5,6 millions. Et puis, ça continue comme ça, avec un gros écart entre l'année dernière et cette année jusqu'au 14 mars. Le 14 mars, c'est juste à la veille du confinement. 4 364 000 téléspectateurs cette année, 5 094 000 l'année dernière. Et puis, dès le 21 mars, on passe à 5 098 000 téléspectateurs pour The Voice 2020, alors que l'année dernière, c'était à 4 945 000. Cette tendance s'accentue de plus en plus, puisque le 28 mars, par exemple, toujours 5 millions de téléspectateurs, 900 000 de plus que l'an dernier. Et puis, vous voyez, le 11 avril et le 18 avril surtout, 5 millions 267 000 téléspectateurs. L'an dernier, donc c'était 3 322 000 téléspectateurs. Donc, on fait un vrai carton. La moyenne cette année est aux alentours de... entre 4,5 millions et 5 millions de téléspectateurs, j'ai pas fait la moyenne exactement, mais c'est du coup une aubaine un peu, j'allais dire, pour l'audience de The Voice, comme beaucoup d'autres émissions, comme Koh-Lanta d'ailleurs, c'est vrai que c'est un vrai carton.
Alors on a Maria en ligne avec nous, Maria Doyle, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles et bonjour Rémi. Et merci pour toute cette info. C'est très intéressant, toutes ces chiffres-là.
Et ben voilà, c'est grâce à vous cette année, si ça marche, c'est ça. Maria, je rappelle que vous êtes non-voyante. Vous avez raconté votre histoire bouleversante et passionnante. C'est parfait pour la fête des mères. Et comme livre, c'est, on ne voit bien qu'avec les yeux, qui est paru chez Plon. Vous avez déjà enregistré votre performance que nous verrons demain. Comment ça s'est passé?
Alors, je vais t'expliquer pour Gilles surtout, parce que en fait, cette demi-finale, c'est vrai, c'est historique, mais nous, comme demi-finalistes, on était vraiment en direct. Lundi, c'était des répètes avec toutes les distances sociales, avec toutes les règles sanitaires. Et mardi, Nico était là et c'était quand le compte Tobour était lancé, on était en direct. Alors,
oui,
du
coup, c'est condition directe.
C'est
donc,
ça.
Vous auriez, alors, donc, plantade possible, vous auriez pu vous tromper.
C'est ça, exactement.
Etc.
Alors, moi, c'est exceptionnel parce que je suis avec mes deux enfants, Emmanuel en piano et Shannon au violon. Et comme tu dis, c'est le plus beau cadeau pour une maman, peu importe qu'est-ce qui va se passer demain. Je ne sais pas, Gilles et Valérie, si vous vous souvenez, en 2018, quand je suis venue pour mon livre, on ne voit bien qu'avec le cœur, pas avec les yeux, Valérie.
Ah oui,
il y avait vos enfants
pardon.
Qui étaient là.
J'ai fait, non, mais j'ai dit, on ne voit bien qu'avec les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, effectivement. Pardon.
Alors, j'ai écrit dans mon livre, chapitre 15, que je n'avais pas de rêve de gloire. Je voulais juste remonter sur scène pour donner de la joie à tout le monde qui m'écoute. Et cette fois-ci, je ne voulais pas dissimuler mon handicap, car je voulais témoigner que tout est possible. Et là, j'ai écrit ça il y a 2 ans. Et là, demain soir, je vais faire ça, Valérie et Gilles et Rémi. Je vais monter sur scène avec mes enfants, chanter pour donner cette énergie que j'ai en moi, pour donner envie aux gens d'avancer et dire que, regarde, aveugle, j'y arrive. Pourquoi pas vous? Yes.
Voilà,
vous
c'est un
déjà,
peu le,
vous
c'est le message
gagné,
que vous voulez
fait.
Faire passer.
Voilà, c'est ça le message. Peu importe.
Oui. Et demain, Gilles dit, vous avez déjà gagné d'une certaine manière, Maria. Mais
pour
je vois
moi,
une auditrice...
Oui.
Qui nous dit, du coup, le gagnant ne sera pas décidé par les maisons de disques ou les promoteurs de spectacles. C'est la critique qui est faite de temps en temps. Mais il y a un vrai vote, il y a des huissiers,
oui,
tout
absolument.
Est extrêmement contrôlé. Donc cette fois-ci, effectivement, ce sont les gens qui vont voter, téléphoner.
C'est la France, c'est la voilà. France. Et demain soir, moi, je chante. Et là, Gilles et Valérie et Rémi, j'ai un avantage demain soir. C'est la première fois de ma vie, ça arrive. Parce que justement, je vois pas. Et depuis que je suis toute petite, je visualise tout. Demain soir, vous allez voir, c'est comme si je suis au palais de sport. J'imagine ma famille, mes amis, je te vois Valérie, Gilles, je vois toute la famille Sud Radio, je vois la France. Et demain soir, je vais chanter en français. Et c'est pour vous. Les Français bon. Que je vais chanter. Voilà.
Bon. Bah écoutez, merci Maria. Bah, on va vous retrouver demain soir. Rémi, vous vouliez poser une question
vous, hein.
Non, mais je voulais dire, je pense que c'est vrai que le changement de règles est c'est important et pour Maria comme pour les autres. Mais du coup, l'impact direct des candidats, il y a 12 candidats. Eh bien, je pense que vous avez un impact très fort, Maria, votre voix et puis votre personnalité. Et du coup, tous les téléspectateurs vont être un peu émus par ça. Et je pense que on va peut-être vous retrouver samedi prochain. Hein. C'est possible,
écoute,
Maria.
Peu importe. Demain soir, le plus beau cadeau pour moi, c'est en avance. Je suis avec mes enfants demain soir sur TFA, demi-finale de The Voice. C'est incroyable.
On sera devant la télé, Maria.
Maria, j'avais juste une dernière question.
Oui.
Si jamais vous êtes
oui,
finaliste, est-ce que cette fois-ci, le samedi qui suit, vous êtes enregistré ou là, pour le coup, vous serez sur le plateau en direct?
Alors, c'est pareil pour le final au niveau de chanson, mais après, les 4 finalistes sera obligé d'être là-bas le samedi soir.
Pour recevoir le prix.
Pour, être, voilà. pour être là le samedi soir. Eh bien, écoutez, on vous rappellera vendredi prochain, s'il y a matière à vous rappeler.
Merci Valérie, Gilles Rémy et Sud Radio. Gros bisous.
Bonne chance. Merci Maria Doyle. Demain, donc, à retrouver dans The Voice. Rémy, d'autres infos médias
peut-être une info sur l'audience de Didier Raoult, parce que c'est quand même la star des médias.
Oui,
je sais que vous en parlez souvent, mais enfin, on a eu toujours avec 24 heures de retard l'audience de l'interview de Didier Raoult sur BFM TV par Bruce Elkrief et Margot de Frouville. Pardon ?
Non, j'ai dit le Mbappé de la science.
Oui, c'est ça. Donc 637 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 20h02 à 837 000 téléspectateurs. Dans l'émission de David Pujadas, 8 jours plus tôt, il avait également rassemblé 722 000 téléspectateurs avec un pic à 811 000. Donc on voit bien que c'est la star. Et puis alors, c'est intéressant parce que Margot de Frouville, vous savez, la journaliste spécialiste de santé de BFM TV, a réagi à la scène dont vous aviez parlé d'ailleurs, Gilles, chute, taisez-vous. Eh bien, elle a expliqué qu'en fait, il était beaucoup plus sympathique hors interview, et puis qu'en réalité, elle était tout à fait préparée à ça, elle savait bien, elle avait regardé les autres interviews, elle savait bien que ça allait se passer comme ça. Elle a dit, je pense qu'il joue un peu aussi ce jeu parce qu'il sait que ça marche de mépriser et de détester les médias et les journalistes. Eh bien, il sait qu'il s'adresse à une femme. En plus, je suis jeune, donc je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Donc, elle décrypte un peu le comportement qui a pu choquer certains de Didier Raoult.
D'accord. Très bien. Ben oui, j'ai vu ça, effectivement. C'est ce qu'elle disait. Parmi les infos qu'il ne fallait pas manquer, Rémi?
Eh bien, écoutez, il y a peut-être, puisqu'on est à quelques heures de Koh-Lanta, on peut peut-être dire que Alexia Laroche-Joubert a donné une interview, a expliqué que cette finale générait 60 000 euros de surcoût à cause du respect de toutes les règles sanitaires. Les liaisons, ils ont été obligés de refaire le plateau. C'est vrai que.
Et en fait, elle expliquait un truc assez incroyable, c'est-à-dire que ils ont refait tout le décor parce qu'évidemment il n'y a pas de public, donc tous les plans qui sont vers le public, il n'y a plus possibilité de filmer le public, donc ils ont refait un décor. Ils vont tous être présents et donc avec les distances, il faut agrandir le décor. Il n'y aura qu'une personne. Vous l'avez dit d'ailleurs ce matin dans votre rubrique à 9h30, il n'y aura qu'une personne en duplex parce qu'il habite les Antilles ou la Martinique, je crois.
Ouais, Benoît. Des candidats,
et ils vont tous être là. Et pour la première fois, l'émission, elle va être rallongée, puisque
pour la première fois, la finale. Au lieu des 20 minutes
exactement.
C'est ça,
et je pense qu'ils vont revenir. Il y aura beaucoup de magnétos, et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de magnétos que le coût a été augmenté. Évidemment, Valérie, on est derrière Claude, notre chouchou, qui va être sur les poteaux, et on aura le gagnant lundi prochain sur l'antenne nationale.
Ou la gagnante.
Non, on aura le gagnant.
Ils sont pas d'accord. On verra lundi.
Le gagnant lundi prochain sur Sud Radio, évidemment dans l'émission peut-être Média dès 10h10 en direct.
On peut peut-être signaler le retour de Jean-Pierre Pernaut en plateau aux manettes du 13h dès lundi. C'est son épouse Nathalie Marquet qui a tweeté, qui a dit c'est reparti pour mon mari en studio dès lundi. Pour son JT de 13h.
Oui, Jean-Pierre qui s'était isolé, confiné et qui n'intervenait qu'en fin de JT, effectivement. Donc il sera lundi à l'antenne. Le retour des plus belles vacances sur TF1 à partir du 8 juin également, dans les annonces qui ont été faites.
Oui, absolument. C'est Valérie Damidot qui revient pour la saison 3. C'est toujours à 18h10. Ça va prendre quelques semaines d'émission. Et puis peut-être je voudrais signaler aussi quelques annonces qu'a faites Cyril Hanouna, parce que il fait beaucoup de choses en ce moment. Vous avez vu que Apprendre ou à laisser marche très bien, mais il le prolonge jusqu'à plus de 21h30. Alors, il a quand même expliqué que Touche pas à mon poste allait revenir en septembre, que l'équipe actuelle serait toujours en place, mais qu'il y aurait au moins 2 ou 3 nouveaux candidats, dont Thomas Vilches, qui est un journaliste sportif de Bein Sport. Il l'a annoncé.
Il y aura des nouveautés.
Comment ?
Je dis oui, il a annoncé un certain nombre de nouveautés.
Et comme d'habitude, vous savez, et il a aussi dit qu'il s'arrête le 18 juin.
Il y aurait des best-of. Il faut qu'on s'arrête, Rémi. Mais on reviendra sur ces. On reviendra sur ces annonces et puis aussi sur les très très gros changements dans les radios. Beaucoup de bouleversements, de départs. On y reviendra avec vous. Merci Rémi, merci Gilles.
Donc lundi, le gagnant de Koh-Lanta à ne pas manquer. Valérie,
le gagnant ou la gagnante. Ce sera lundi. Merci Rémi, merci Gilles. On se retrouve avec Gérard Collard tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et comme tous les vendredis, nous retrouvons Gérard Collard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire, comment allez-vous ?
Eh bien très bien, c'est la fête des mères demain ou dimanche, donc on est prêt, on attend les gens, on est content de les voir et puis j'espère qu'ils seront contents de nous revoir aussi.
De vous revoir, mais là comment ça se passe ? Ça a repris, oui.
Je peux parler que de ma situation personnelle, mais ça marche très très bien. Oui, les gens sont vraiment de retour, ils sont vraiment bien. C'est vraiment ce qui est très sympa, c'est très chaleureux, parce que c'est vraiment ce côté, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'est-ce qu'on est content de revenir, qu'est-ce qu'on est content de pouvoir toucher des livres. Voilà, c'est une bonne nouvelle.
Et on peut dire que pour la fête des mères, le livre reste un merveilleux cadeau.
Pour pas cher en plus, vous pouvez avoir des jolis livres avec des choses très intéressantes pour 5€ ou 6€. Donc, je trouve que ça fait toujours plaisir et puis c'est intelligent, c'est convivial. Voilà.
Ouais. Alors, vous nous conseillez quoi cette semaine ?
Alors j'ai décidé de vous faire un cadeau. La semaine dernière, je vous avais parlé du bouquin de Christopher Bolon, un si joli crime, vous savez, qui se passait à Venise, l'histoire de ces deux gars qui veulent monter des escroqueries. Ouais. Et là vient de paraître en folio un livre que vous aviez adoré, de Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour.
Vous aviez vraiment craqué
pour ce bouquin. Il a un style absolument merveilleux, cet homme. Et puis là, il va se balader dans Venise, mais il a des tableaux mythiques qui le hantent. Il va aller essayer de faire rouvrir les églises qui sont fermées.
Oui, les églises fermées, c'est une visite de Venise, une sorte de jeu de piste presque pour réussir à faire ouvrir ces églises. C'est absolument passionnant, c'est beau, c'est poétique, c'est prenant, c'est drôle parce qu'il a un style effectivement.
Et puis quand il se confronte au petit fonctionnaire qui ne veut pas ouvrir le truc, il est forcé de faire plein de choses, il faut qu'il... C'est un Venise comme on le connaît pas, et puis on se dit, mais pourquoi ils ouvrent pas ces églises ? Nous, on a envie de les voir aussi, mais à travers ce livre, ça vous permet d'un peu découvrir. C'est un joli guide de voyage dans l'absolu, puis qui fait rêver. Il faut tout lire de lui. Hein. C'est vraiment, moi, j'avais adoré L'Arche de Kerguelen, qui était un livre magnifique, et c'est un des plus beaux styles français, je trouve, classique, et voilà. Donc pour moi, ça a été...
Donc rappelez-nous le titre, c'est...
Venise à double tour, c'est chez Folio.
Venise à double tour, c'est chez Folio. Voilà. Alors moi, je ne sais pas vraiment si c'est pour la fête des mères, mais pourquoi pas. C'est un livre a priori vers lequel je ne serais pas allée. Ça s'appelle Vous n'aurez pas les enfants de Valérie Porteret chez Ixo Éditions. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer.
Non, j'ai vu passer.
Double préface donc de Serge Klarsfeld et Boris Cyrulnik. Et en fait, c'est une histoire assez peu connue de la Seconde Guerre mondiale. C'est le sauvetage de 104 enfants, il y en avait 106, il y en a 104 qui ont été sauvés. Alors c'est à la fois l'histoire de ces enfants qui sont condamnés, qui sont des enfants juifs, et cette mobilisation, il y a deux prêtres qui ont pris en chose les mains, et c'est une enquête qui a duré 30 ans. L'auteur Valérie Porteret a enquêté pendant 30 ans. Ces enfants ont été envoyés en Suisse pour la plupart. Alors c'est parfois insoutenable, en tout cas la première partie du livre, mais c'est une histoire merveilleuse, surtout la troisième, enfin merveilleuse, pardon, parce que ça se termine bien pour ses enfants, elle a surtout retrouvé, c'est ça qui est très fort, ses enfants qui ont survécu à cette rafle, et puis elle rend hommage à tous ceux inconnus qui se sont mobilisés pour justement sauver ses enfants. Donc il y a l'histoire de ses enfants, leur parcours, et puis c'est un livre qui est bouleversant, passionnant, vraiment c'est un travail remarquable. C'est chez Ixo, elle s'appelle Valérie Porteret, et je vous conseille vraiment de le lire, parce qu'on ne connaît pas cette histoire, on ne connaît pas ces héros qui ont pendant la Seconde Guerre mondiale réussi à sauver des enfants. Ça s'appelle Vous n'aurez pas les enfants chez Ixo.
Je suis toujours effaré par le courage de ces gens, parce que là, maintenant, tout le monde est courageux, mais là, quand on voit la situation de l'époque c'était vraiment des courages, c'est quand même autre chose, ça remet les choses en valeur, hein. Je trouve qu'au niveau des échelles, c'est vraiment incroyable. Alors, je vous ai proposé d'aller à Venise. Si vous êtes parisien, que vous dites peut-être que je pourrais rester à Paris me balader, ils viennent de ressortir toujours en folio. Cette semaine, il y a eu des trucs assez sympas. Ça s'appelle Les Dimanches d'un bourgeois de Paris, de Maupassant. Ce sont des nouvelles, hein, mais ça se lit comme des petits romans. Et là, vous voyez que Bah, rien n'a changé, hein. Sauf qu'ils sont plus jeunes. Mais alors lui, il va se balader, vous savez, dans les coins où les impressionnistes ont en banlieue et tout ça. Et puis qu'est-ce qu'il dit ? Bah, il dit qu'est-ce que les Parisiens sont conformistes, ils s'ennuient la plupart du temps. Ils sont, mais vraiment, c'est que le bon sens qui les dirige. Et voilà, c'est un peu, on a l'impression d'être dans le 11e ou dans le 10e, vous savez, c'est les mêmes, mais rajeunis. Donc, et alors c'est, alors là, je plaisante, hein, je suis méchant, mais c'est sont des très très jolis textes. Et puis vous voyez, vous êtes en plein dans cette époque, vous avez l'impression de pénétrer chez les impressionnistes, puis vous voyez quand même, c'est à la fois beau, c'est à la fois poétique, c'est à la fois pittoresque, mais c'est aussi tragique. Et ce type qui se balade dans Paris, il se fait avoir, mais alors à tout bout de champ, il est nul, il est niais, c'est le petit bourgeois complètement perdu. Allez-y, moi j'adore Maupassant, hein, mais c'est vraiment... voilà, vous le prenez, vous en lisez une, ça peut se lire dans le désordre. Et je trouve que il y a longtemps que j'avais pas lu un truc de Maupassant qui m'avait aussi passionné. Et je trouve que c'est une très très je trouve. Et puis c'est un peu nos racines aux Parisiens là. Alors, mais même si vous êtes de Lyon, hein, c'est pas grave, ça vous permettra de donner des arguments quand les Parisiens arriveront. Mais vous direz voilà, rien n'a changé. Allez-y, ça s'appelle Les Dimanches d'un bourgeois de Paris de Maupassant chez Folio. Vous voyez, c'est comme le bouquin de Kaufmann, c'est pas très cher. Vous vous offrez ça, et les gens, enfin vos parents, votre mère, ou même, ils seront très contents, et c'est du classique, mais vivant. Parce qu'il y a du classique mort, hein, on peut, voilà.
Non, mais Maupassant, c'est effectivement, à chaque fois qu'on replonge dedans, on est frappé par le côté très, très contemporain, à la fois du style et des sujets
qu'il traite.
À signaler peut-être des idées cadeaux également, il y a des biographies de Michel Piccoli qui sont en train de sortir quand on voit le succès des diffusions. Philippe Durand aux éditions Fabre qui publie une biographie qui à la fois parle du comédien, mais de l'homme, de ses engagements. Donc, pour ceux qui aiment Michel Piccoli, je vous conseille donc ce livre. Ça s'appelle Michel Piccoli, Les choses de sa vie. C'est aux éditions Favre et l'auteur s'appelle Philippe Durand. Autre chose, Gérard ?
Oui, alors moi, j'adore cette collection, j'adore cette héroïne. C'est Anne Granger. Anne Granger, c'est une Anglaise. Hein. Elle écrit des polars. Et son héroïne, elle s'appelle Lizzie Martin. Et là, ils viennent. Alors, ils avaient édité plein de ces polars qui se passent à l'époque victorienne. Mais on n'avait pas le début d'où venait cette jeune femme. Et là, on a les premières enquêtes de Lizzie Martin en 1018. Vous avez en plus deux romans dans un, donc c'est super bien fichu. Alors Lizzie Martin, hein, c'est elle est fille de médecin. Elle vit dans un pays de mine. Son père meurt. Et bon, bah, elle doit partir, elle doit gagner de l'argent, elle doit vivre. Et on lui trouve un poste de, comment on appelle ça, dame de compagnie. Mais quand elle arrive, manque de peau, la précédente dame de compagnie, on la retrouve morte. Alors, Lizzie Martin, elle est un peu particulière, hein. C'est une vieille fille, c'est une emmerdeuse. Elle devrait se taire, mais non, elle se tait pas. Elle va chercher, elle cherche. Et puis, en plus, elle va rencontrer un inspecteur. Alors, la vieille fille, elle tombe quand même parce que l'inspecteur, il est pas mal, hein. Il est assez beau et tout. Donc, ça fait un couple d'enfer. Et là, vous allez vous balader dans le Londres, vous savez, le Londres qui est en pleine transformation, comme Paris sous Haussmann, et vous allez découvrir la pauvreté, le mensonge, l'hypocrisie et tout. C'est plein de charme, c'est plein d'humour, c'est passionnant, c'est palpitant, c'est, je trouve, la quintessence de ce polar anglais, vous savez, qui remonte au 19e siècle. Vous êtes pris dedans. Ouais, moi, tout ce que j'aime, alors je sais que c'est pas, je sais pas, ça a pas le truc de Conan Doyle ou tout ça comme ça, mais moi j'ai passé vraiment chaque fois que je lis un de ces romans, bah, je passe un grand grand moment, un bon moment, et puis ça me fait tout oublier, puis ça me fait rire, et puis ça, en plus c'est un côté historique parce qu'elle est très 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 fidèle à la situation de cette époque, et vous avez un beau portrait assez cruel, assez dur de cette époque victorienne. Je trouve que allez-y, c'est en 1018, hein, ça s'appelle les premières enquêtes de Lizzie Martin, d'Anne Granger chez 1018, c'est pas cher et c'est super beau,
et vous passerez un super moment. Et moi, je vous recommande de relire Le Bûcher des Vanités de Tom Wolfe.
Il l'a
écrit en 1987 et ce livre est d'une actualité absolument incroyable. Il avait prévu en quelque sorte tous les affrontements raciaux. C'est un riche youpie un banquier, un trader de Park Avenue qui voit son univers s'effondrer après avoir renversé un jeune noir. Et là, les communautés s'enflamment. Il y a à la fois la bourse, il y a la presse. C'est incroyable. Relisez ce livre. Moi, c'est un de mes romans, c'est de mes livres préférés. Ouais. C'est éternel, c'est en poche également et ça coûte pas cher. Il y en a 5,82 €. Voilà, je le vois sur Internet. Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. Vous allez voir, ça fait vraiment écho à ce qu'on est en train de vivre. Merci Gérard. On retrouve évidemment tous les titres sur le site de la Griffe Noire, la petite librairie, sur
et
YouTube
sur le
également.
Podcast de Sud Radio qui sont hyper bien faits.
Absolument. Ouais. Très bien fait. Merci Gérard et bonne fête des mères à vous. Bon week-end. Bon week-end à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.